Cours de philosophie première par le Père Dominique Philippe, le 14 mars 2002 à Saint-Judas.
Question. Mais je crois que c'est bien de la lire. On pourrait illustrer ce que vous disiez hier par les exemples suivants. Au point de vue psychologique, l'une des meilleures manières d'aider quelqu'un quand cela est possible, et la thérapeutie familiale. Oui, l'importance, évidemment, du milieu premier, la famille. On est dépendant de ce milieu qu'on n'a pas choisi. C'est notre petit univers. Alors ça fait partie que le corps est dans le devenir. Alors il y a ceci de très particulier, évidemment, c'est que ce devenir, nous le portons en nous par notre corps. Nous l'avons assimilé, ce devenir. Vous voyez, plus ou moins. Et nous l'avons subi. Et ce devenir, la famille, et notre petit univers, à cause du corps, nous sommes dépendants du milieu dans lequel on est né, dans lequel on a été engendré. Il y a une dépendance, donc, fondamentale, radicale, à cause du corps. Donc, ça, c'est sûr. C'est en ce sens-là, alors ça, c'est extrinsèque à la philo, que la Genèse est si importante à lire et à relire. Parce que je crois que c'est la théologie, c'est de la famille qui nous est donnée là fondamentale. Il faudrait comparer ces deux théologies de la famille, le point de vue de la Genèse qui reste familial toujours, et la Sainte Famille. Ce serait extrêmement intéressant à comparer les deux. Il faudrait en même temps montrer au plan philosophique l'importance de la famille. Alors, ça peut être d'abord et illustré par ça. Donc, la thérapeutie familiale, qui, paraît-il, a énormément de succès au Mexique. Un événement mal vécu par l'un des enfants, peut être exposé devant tous les autres en prenant connaissance. Puis, ces autres membres de la famille disent comment eux ont vécu le même événement, de façon à objectiver la démarche et à éviter une fausse relecture. C'est une relecture, hein. Alors, avec tout ce qu'il y a de relatif, parce que la relecture est fondamentalement relative, hein, ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais regarder la relecture comme quelque chose de parfaitement réel. L'intentionnel Donc le subjectif intentionnel est premier dans la relecture. Le but est aussi, donc c'est une relecture familiale, le but est aussi de fortifier la famille en rendant ses membres plus attentifs aux fragilités des uns et des autres. Alors, c'est très bien, mais c'est en même temps tout le point de vue relatif de la relecture. Vous voyez, et c'est un peu fatal, parce que de votre première naissance, vous n'avez pas beaucoup de souvenirs du moment où vous êtes né. Vous avez passé d'un milieu tout à fait individuel, unique, pour vous tout seul, à un milieu familial. C'est donc quelque chose de formidable, puisque la famille est la première communauté. Mais avant la famille, il y a eu une formation qu'on a subie, une formation individuelle avant la naissance. Et ça a duré 9 mois, ou 8. Donc, la relecture, ce qu'on appelle cette méthode familiale, très bien, avec le bémol relecture. Alors, une relecture familiale a l'avantage que chacun des membres l'a vécu différemment. Alors, ça manifeste davantage l'aspect relatif d'une relecture. Parce que c'est le même événement qui a été vécu 4, 5 fois différentes. Le Mexique, dans le domaine de la recherche en psychologie, considère que l'Europe est restée en arrière en ne voyant pas les erreurs de Freud. Oui, il nous juge très durement à cause de Freud. C'est très vrai, ça. Freud a eu une très grande influence. Or, Freud, il y a de très grosses erreurs. La psychologie au Mexique intègre beaucoup d'éléments d'une philosophie de la famille et de l'amitié dans sa thérapeutique. Non, très bien. Coup d'encensoir à la Mexique. Il y a eu aussi un virage pris ces dernières années au Mexique dans le domaine de la recherche en psychiatrie. Ils se sont rendus compte qu'il fallait, dans les thérapeutiques, renvoyer le patient à sa pratique religieuse, l'inviter à approfondir sa croyance en Dieu comme un ressort puissant pour assumer leurs difficultés. Oui, donc le Mexique est resté profondément religieux dans sa tradition. C'est sûr que la dimension religieuse dans la famille est capitale. Un foyer où l'on reconnaît Dieu, où il y a la prière en famille. Ce qui a existé dans les foyers chrétiens, même en Europe, mais qui n'existe plus beaucoup en Europe aujourd'hui. La prière religieuse en famille, le petit enfant voir ses parents se mettre à genoux à côté de lui, c'est quelque chose de très grand, ça, pour lui. Et c'est quelque chose d'ineffaçable. Les parents se sont mis avec les enfants pour adorer Dieu. Et ça, je crois que c'est, au fond, quelque chose de très important. Et le geste, pas seulement le dire, hein, le geste, puisque l'enfant est beaucoup plus sensible au geste qu'à la parole. Il n'est pas intellectuel, l'enfant. Il n'a pas les défauts de l'intellectuel. Nous, nous sommes très sensibles à la parole, mais l'enfant est plus sensible au geste qu'à la parole. Donc, la prière commune, familiale, où tout le monde est à genoux, en face du crucifix, que le petit enfant est à côté de son père et de sa mère, qui sont eux-mêmes à genoux, et tous ensemble tournés vers Jésus. C'est quelque chose de très grand, ça. Parce que, vous voyez, on voit les parents qui ont une dignité pour l'enfant si importante. C'est la dignité visible la plus grande. Voir que les parents sont à genoux avec eux pour prier. Je crois que ça, c'est quelque chose de capital, parce que ça met l'unité au-delà de l'autorité. Une unité vis-à-vis de quelque chose de transcendant. Dieu, on ne le voit pas, mais il est présent. Et en face de lui, le père et la mère, qui sont les autorités, qui sont donc si grands, qui dépassent l'enfant, s'humilient. Il y a donc une espèce d'unité dans le geste d'adoration. Dans le geste d'adoration, les parents sont comme les petits-enfants. L'autorité du père et de la mère devient relative. Dans l'image, parce que c'est l'image qui s'imprime. Et je crois que ça, c'est très important. Et les premières images jouent toujours un très grand rôle, n'est-ce pas ? Aristote a cette remarque qui est très juste. Dans l'éducation première, l'imitation est capitale. L'imitation, donc la cause exemplaire, devient capitale. La cause exemplaire, c'est ce qu'on voit. Et voir les parents à genoux pour un enfant, c'est quelque chose de formidable. C'est l'Himalaya qui dégringole et qui devient une plaine. On est tous à égalité en face de quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qu'on respecte, comme s'il était présent. Alors, c'est la première image de la transcendance, c'est au point de vue imaginatif. Et ça, c'est très important. Si on a reçu ça au début, la transcendance devient familiale. Et apprendre la transcendance dans la famille, par la famille, par le père et la mère, c'est quelque chose, je crois, qui ne peut pas se remplacer. Parce que c'est l'immanence des parents qui sont pour l'enfant ce qui est plus grand. Il n'y a pas plus grand que les parents, même comme taille, il les dépasse. Et de voir qu'ils se mettent à genoux à côté de l'enfant, comme lui, à l'intérieur de cette immanence, on respecte le transcendant. Vous voyez, l'image de la transcendance est née à partir de l'immanence, ce qui est très important. Vous voyez, je crois que c'est ce qui a manqué à Kant. Le transcendant est avant tout intellectuel. Non, le transcendant est avant tout familial. Il est dans l'affectivité. Il est dans le corps. Se mettre à genoux à côté de ses parents pour adorer quelque chose d'invisible, quelqu'un d'invisible, mais de très grand. Ça s'imprime dans le point de vue de l'imagination d'une façon très spéciale. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'irremplaçable. Ça, c'est parce que quand on... C'est le premier élément de la vision familiale. La famille demande d'être religieuse si elle veut être famille. Religieuse pour les parents, pour les enfants. Autrement, la famille devient tyrannique. Et alors, il y a la révolution, très vite, qui se fait des enfants qui veulent se libérer des parents. Tandis que s'il y a cette vision première de la famille, de la transcendance, qui c'est dans l'immanence, dans l'humilité, c'est uni, il y a quelque chose que la transcendance des parents devient relative. Elle est dépassée. Elle est dépassée par Dieu. Oui. Au fond, il faudrait intituler ça « Comment l'immanence, comment la transcendance doit apparaître chez l'enfant ?» Est-ce que c'est une transcendance tyrannique, le Dieu terrible, et ça reste? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le Dieu de la famille? On est comme protégé par les parents devant la transcendance. Les parents sont là présents. C'est à l'intérieur de l'immanence familiale, de l'amour fraternel. Je crois ça très important. Dans toute philosophie, les rapports de l'immanence et de la transcendance sont, c'est quelque chose de capital. Hein. On pourrait presque prendre ça comme le schème commun de toute philosophie. C'est les rapports de l'immanence et de la transcendance. Comment ça se fait ? Est-ce que les premiers rapports de l'immanence et de la transcendance se font-elles dans l'amour ou se font-elles par l'intelligence? Quand ça se fait dans l'amour, ça se fait par le point de vue de l'adoration. Et c'est la grandeur de l'adoration. Parce que vous avez une notion de la transcendance à l'intérieur de l'amour, qui n'est plus terribilis Deus, le Dieu terrible. C'est le Dieu terrible, il vient après le péché, puisque Adam a peur et se cache derrière un arbre quand il entend les pas de Dieu. C'est le premier moment du terribilis Deus. et ça marque énormément, ça. Faut qu'on comprenne ça. Et le terrible Yes Deus se fait à l'intérieur de l'amour, par l'immanence. L'immanence de l'acte religieux fait à côté des parents, réalisé à côté d'eux. De voir les parents qui, pour l'enfant, sont l'image de l'absolu, du plus grand qui s'incline avec l'enfant. Alors ça donne à l'enfant un sens de la dignité. Son père et sa mère se sont inclinés avec lui, devant l'eux-mêmes. Or, ça s'apprend par le geste. C'est très curieux. Si on a eu une enfance, on a pu, grâce à Dieu, que les parents ont prié avec l'enfant, la prière, le sens de l'immanence, la transcendance, puisque c'est dans la prière que l'immanence et la transcendance se réalisent en premier lieu, ça s'est réalisé d'une façon familiale, donc avec l'affectivité première. Vous voyez, au point de vue pratique, ce serait intéressant de voir comment s'est découvert en premier lieu la transcendance. C'est dans toutes les philosophies, immanence et transcendance. Vous savez, il y a des petits points comme ça sur lesquels ça nous permet très vite de porter un jugement sur telle philosophie. Parce que c'est un point commun. Dans toutes les philosophies, vous trouverez le rapport de la transcendance et l'immanence. Et ce sera donné très différemment. La compuncture. Même tous les psychiatres ne l'appliquent pas. Cette donnée est enseignée aujourd'hui dans les écoles psychiatriques. Oui, ça c'est tout à fait l'Espagne. Un psychiatre espagnol, je me souviens, a essayé de trouver d'où l'origine de l'angoisse. Et il prend justement l'origine de l'angoisse du fait qu'il n'y a pas eu d'adoration. Un monde qui se développe sans l'adoration, ce sera un monde terriblement angoissé. Oui, c'est toujours les rapports de l'immanence et de la transcendance. Est-ce que vous avez découvert la transcendance à partir de l'immanence affective? Rien n'est aussi immanent que l'amour. Hein. Rien n'est... L'amour, c'est vraiment l'immanence absolue, le petit monde intérieur. Et quand on découvre la transcendance à partir de cette immanence, au point de vue pratique, c'est tout autre que de découvrir intellectuellement la transcendance. La transcendance purement intellectuelle vous donne toujours une espèce de peur et de fragilité. La compuncture en Chine a découvert depuis des siècles que les choses émotionnelles passées étaient accumulées par le corps. Oui, c'est pas la mémoire du corps, c'est l'accumulation. Alors ça, c'est très vrai. Le corps garde. Ça, le corps garde, c'est notre première banque. Il garde notre fortune. Il garde toutes nos émotions. Il garde tout ça. Et au fond, quand vous empêchez l'enfant de pleurer, par exemple, c'est très grave. Parce qu'il est naturel que l'enfant pleure. quand vous voulez qu'il se taise, parce que c'est pas agréable de l'entendre crier, vous l'empêchez de communiquer à l'extérieur. Et donc vous lui demandez de garder ça. C'est le premier refoulement. Avec ce père, avec cet enfant, pendant ce petit voyage en avion, je voyais le père qui mettait sa main sur l'enfant, l'enfant de cri. J'avais envie de lui dire, surtout ne faites pas ça. Le premier refoulement affectif. Terrible. Et c'est vrai, là, l'enfant, comment voulez-vous, il souffre. Il ne peut pas l'exprimer autrement qu'en criant. Il ne peut pas le dire, il ne sait pas. Il souffre. Alors il crie. Alors, lui fermer le bec. Et c'est exiger de lui un refoulement qu'il ne peut pas faire. Il le fera à cause du père qui le fait pour lui. Le père le fait, le père reste en silence, mais l'enfant ne peut pas rester en silence. Il faut donc arriver à calmer l'enfant en le caressant pour que de lui-même ça s'éteigne. Alors il n'y a pas un refoulement. Parce que le corps emmagasine. Ça c'est très juste comme point de vue. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire du corps parce que ça ressort après. Ça a été refoulé et donc ça a été gardé par le corps. C'est là où on verrait, ce serait intéressant à regarder, toute la différence entre la mémoire intellectuelle et la mémoire du corps. Ce qu'on appelle mémoire du corps est tout à fait différent, puisque au plan philosophique, ce serait regarder comment la causalité matérielle accumule. Tandis que la causalité finale ou formelle de l'intelligence n'accumule pas. Quand vous avez le phénomène de la mémoire intellectuelle, vous n'accumulez pas. C'est les événements eux-mêmes que l'on garde. On fait des ressemblances, des analogies et des différences. Tandis que le corps, dans l'accumulation, par la causalité matérielle, fait de fausses synthèses. C'est de faux mélanges. Et ça s'accumule. L'acupuncture en Chine a découvert depuis des siècles que les chocs émotionnels passés étaient accumulés. Vous voyez, à la place de synthèse, on met accumulation. Je crois que c'est la même chose d'une certaine manière. Mais l'accumulation est la synthèse matérielle. Accumulée par le corps sous la forme d'une énergie négative qui disperse les forces de l'homme. On élimine ces centres énergétiques négatifs en les libérant et en rééquilibrant l'ensemble de la masse énergétique du corps. Nous libérer de la mémoire du corps, de ces centres énergétiques. N'est-ce pas un phénomène typiquement occidental qui, par manque de vitalité au plan humain et religieux, cherche une sécurité par la connaissance du passé pour lui-même, n'ayant pas assez de force pour le vivre dans le présent. L'équilibre ne vient pas de l'intelligence, mais de l'amour. C'est la finalité qui fait la synthèse. Et alors là, évidemment, c'est Kant le grand coupable. Vous savez, Descartes et Kant, tous les deux, sont très coupables pour montrer que les synthèses, l'intelligence analytique et synthétique, et tout s'explique par là. Or, la véritable synthèse, elle se fait toujours par la causalité finale, puisque c'est l'ultime causalité. Mais c'est des synthèses d'amour, donc c'est des synthèses d'harmonie. Tandis que les synthèses intellectuelles sont des synthèses d'opposition. N'oubliez jamais ça, c'est très très important. Et ça explique des quantités de conflits. Parce que le nœud du conflit, c'est dans l'Occident, le point de vue l'antithèse par rapport à la synthèse. Pour les pays orientaux, le conflit est affectif et donc doit s'éliminer par un amour supérieur. C'est l'amour qui peut seul me délivrer des oppositions et non pas l'intelligence. La question de la synthèse, d'où ça vient. C'est un phénomène typiquement occidental qui, par manque de vitalité, je dirais manque d'amour, pas de vitalité. La vitalité a été entièrement accumulée sur l'intelligence, sur les mathématiques. C'est ce qu'on fait maintenant. Hein. Et l'origine, c'est Descartes. Pour Descartes, la sagesse est géométrique. Descartes cherche avant tout des preuves de l'existence modo-géométrico. Donc le sommet de la pensée, c'est modo-géométrico. C'est une pensée mathématique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Le sommet de la pensée doit être mathématique. Donc les synthèses se font mathématiquement. Vous voyez, donc la quantité demeure en voulant unir et dépasser les contraires d'un point de vue mathématique. Alors que l'affectivité par la finalité dépasse. Et c'est le monde, c'était le monde oriental. Mais le domaine mathématique va unir l'Occident et l'Orient et va les tuer tous les deux. Les mathématiques sont l'œuvre de l'homme. C'est ça qui est terrible. Les mathématiques sont l'œuvre de l'homme, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu laisse l'homme passer devant en mathématiques. Les mathématiques n'entrent pas dans le ciel. Curieux. Les mathématiques n'entrent pas dans le ciel. Les grandes purifications dernières de l'intelligence seront de ce côté-là. C'est très important de sentir ça. La dialectique est mathématique. Et les mathématiques n'entrent pas dans le mystère de Dieu. C'est l'homme qui est l'auteur principal, cause principale des mathématiques. Il est le maître. De façon absolue. Alors, les mathématiques sont très importantes au point de vue efficacité. C'est très important. puisque c'est par là qu'on domine l'efficacité. Regardez le métier d'ingénieur. Les mathématiques qui, de plus en plus, prennent de la place en biologie. Un domaine dans lequel, au fond, elles ne devraient pas entrer comme elles entrent. On voit que dans tous les domaines mathématiques pénètrent de plus en plus. Donc, on ramène tout à la pensée mathématique. Je crois que c'est le danger le plus grand aujourd'hui, la logique mathématique qui veut tout prendre. Alors, devant ça, je crois que le philosophe peut se demander pourquoi le corps ? Pourquoi Dieu, philosophiquement, la spéculation sur la personne humaine se fait avant la découverte de Dieu ? Mais je peux, j'ai tout à fait le droit, d'avoir un dernier regard de sagesse sur l'union de l'âme et du corps. C'est ce que je prends maintenant. Oui, bien, distinguez bien les deux moments, hein, point de vue philosophique. Avant d'avoir découvert l'existence de Dieu, je peux considérer la personne humaine comme ayant la nécessité du conditionnement corporel et d'avoir étudié le pourquoi de ce conditionnement corporel. Et je peux considérer l'homme dans la lumière de l'existence de Dieu. Dieu créateur de l'âme dans le corps. Un gros problème actuel. C'est un problème actuel qui émeut tout le temps. Et je comprends du reste, parce que ça nous touche directement. Pourquoi Dieu crée-t-il l'âme dans le corps ? À quel moment Dieu crée l'âme dans le corps ? Bon, c'est des grosses questions actuelles qui sont philosophiques. La théologie ne nous donne rien là-dessus. Dieu n'a jamais dit à quel moment il avait sonné la cloche. Je crée l'âme. Alors certains disent le mystère de l'Immaculée Conception montre que l'âme et le corps sont simultanés. Non, le corps provient des parents. Ça fait partie de l'héritage. Nous avons tous hérité de nos parents, notre corps. Un fameux héritage. Héritage du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père. On peut remonter à cette génération. L'héritage peut remonter jusque-là. C'est assez étonnant. Donc, on est conservateur par son corps, la mémoire du corps. Conservateur, on garde tout. Et on a beaucoup de peine à pardonner à ceux qui ont été durs pour notre corps. Alors, je peux me poser la question, pourquoi ? Le corps. Si je me pose cette question dans la lumière de la sagesse de Dieu, Dieu a voulu le corps pour que l'âme humaine puisse réaliser des liens d'amitié. Je crois que c'est la première raison. Si Dieu a créé des anges, philosophiquement, je mets la condition, parce que je ne sais pas exactement, point de vue philosophique, je ne peux pas prouver que les anges existent nécessairement philosophiquement, parce que je n'ai pas d'expérience du toucher. Vous n'avez jamais touché votre ange en lui tendant la main. Donc, philosophiquement, les anges, c'est une très belle hypothèse, très belle, et une hypothèse qui a hanté l'humanité tout le temps. Et dans la foi, les anges existent. Or, les anges ne connaissent pas l'amitié naturelle entre eux. Ce sont des solitaires. C'est pour ça que nous avons une nostalgie de solitaire d'être comme les anges. Quand même tellement mieux. Hein. Parce que celui qui nous embête le plus, c'est le voisin. C'est l'autre. Alors, être seul. On a des nostalgies de solitude. Et certaines personnes ont ces nostalgies d'une façon très très forte. Et par le corps, Dieu permet l'amitié. Dieu permet par l'amitié que l'homme et la femme puissent s'unir et être source de vie. Les êtres spirituels, comme les anges, ne sont pas source de vie. C'est la seconde raison. Dieu désire se communiquer le plus possible. Et il peut communiquer à l'homme d'être source de vie par le corps. Je ne suis pas source de vie de l'âme. Je suis source de vie du corps. Et c'est pour ça que notre corps porte un atavisme. C'est la dépendance avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et c'est quelque chose de très fort, ça. Et cette chose très curieuse, hein, c'est qu'un homme arrivé à 45 ou 50 ans, où par la sainteté, par la grâce, il garde une originalité unique vis-à-vis de Dieu, où il redevient le fils de ses parents. C'est très curieux, ça. Quand vous aurez 50 ans, rappelez-vous de ça. C'est où la sainteté, alors on est seul avec Dieu. Et il y a le dépassement de tout ce que représentent les liens avec les parents et les grands-parents, où on redevient le fils de ses parents, de façon très nette. Et puis, troisième raison, Dieu, par le corps, permet que l'homme soit source du facere, réaliser une œuvre, changer le milieu de vie dans lequel on est, réaliser une œuvre de beauté, ce que l'intelligence porte. Les trois raisons pour lesquelles il y a le corps, il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est une vision de sagesse. Et c'est pour ça qu'on doit aimer son corps. Mais on aime son corps non pas comme quelque chose qui est ma finalité, mais comme ce qui me permet, grâce à mon corps, de vivre liturgiquement. La liturgie est une œuvre d'art pour Dieu, d'art chrétien. La liturgie au sens où les orthodoxes l'emploient encore maintenant. Quand ils vous invitent d'assister à la messe chez eux, ils vous invitent à la liturgie. C'est la liturgie. Et la grande liturgie, elle est le mystère de Pâques et la transformation du mystère de Pâques en l'Eucharistie. Et c'est cela qui nous permet de sortir de la domination de l'Égypte, c'est symbolique, la domination du Tout-Puissant, et d'entrer dans les libertés par rapport à l'union avec Dieu. Plus je suis uni à ma cause première, Dieu, plus je suis libre. Et ça, métaphysiquement, je le prouve, hein, puisque mon âme reste dépendante de Dieu. Découvrir cette dépendance et la vivre amoureusement par l'adoration. L'adoration, c'est vivre amoureusement la dépendance avec Dieu. Le saint esclavage, comme certains l'ont appelé, c'est vivre amoureusement notre dépendance avec Dieu. Parce que être entre les mains de Dieu et dépendre de Dieu, c'est acquérir une souveraine indépendance. Dieu est le seul être dont je peux, pour me libérer, dépendre. Plus je dépends de Dieu, plus je suis libre. Plus je dépends des hommes, moins je suis libre. C'est cette relation tout à fait particulière avec Dieu que philosophiquement je dois comprendre. C'est pas la foi qui me dit ça, c'est l'intelligence. De sorte que ce qui se fait aujourd'hui quand on veut supprimer cette dépendance à l'égard de Dieu, on retombe dans une dépendance radicale de l'espèce humaine. Et ça deviendra tyrannique. Jusque combien de temps Dieu permettra ça, je ne sais pas. Mais c'est un signe de la fin, ça. L'homme se révolte contre Dieu d'une façon telle qu'il ne veut plus entendre parler de l'adoration. C'est la révolte suprême, ça. Et Dieu le permet. Dieu se tait, il est patient. Mais combien de temps permettra-t-il à l'humanité, comme humanité, de se révolter contre son Créateur? L'homme, en faisant ça, prend une attitude inhumaine, une attitude animale. Donc, il se dégrade lui-même et accepte la dépendance absolue, la tyrannie absolue de l'animal qui est en lui. Donc la dépendance générique de l'animal qui est en lui. Et c'est ce que nous vivons, ça. Et c'est contraire d'une manière absolue à la philosophie de la personne. On ne voit plus que l'individu. Et l'individu ne peut vivre que globalement avec tous les autres individus. L'espèce de tyrannie de l'absolu, de la totalité. Et au fond, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est essayer de faire de l'individu, avec son atavisme, de découvrir en lui un absolu qui n'a pas, puisque le seul absolu au point de vue de l'être, c'est Dieu, le seul absolu au point de vue de la vie, c'est Dieu, et l'homme voudrait trouver en lui-même cet absolu. C'est la révolte ultime, je crois que c'est vraiment la révolte ultime contre.